La pause maternelle. Bonjour et bienvenue dans la pause maternelle sur MyCalade. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Cette émission est destinée aux mamans pour parler sans tabou de sujets en lien avec la maternité et qui peuvent toutes nous toucher. Le but de cette émission est de leur permettre de témoigner de leur vécu. Chaque mois, nous recevons le témoignage d'une maman en direct ou de manière anonyme et nous échangeons avec elle autour de son expérience. Je suis Élodie, je suis doula sous le nom de Doucela et je suis accompagnée de Lucille, musicothérapeute clinicienne au cabinet Les Sons Naissance. Bonjour Lucille, comment tu vas aujourd'hui ?
Eh ben, très bien, merci beaucoup pour cette superbe introduction encore une fois. Et aujourd'hui, bon alors pour le coup on accompagne les mamans mais aujourd'hui on revient sur nous.
Oui exactement, pour une petite émission spéciale qui rentre dans le volet d'être mère et entrepreneuse. Donc là, c'est l'émission numéro 3 que nous allons vous faire partager aujourd'hui. Et donc, avec Lucille, nous allons parler de nous, comment on gère l'entrepreneuriat et notre vie de maman. Qui n'est pas toujours ça.
Vaste sujet. Vous avez déjà eu la première partie pour voir d'où on venait, en fait, hein, d'une certaine manière. Même si on ne peut pas, bien sûr, tout résumer sur une heure de temps d'émission comme ça. Mais j'espère que ça vous permet de voir aussi que ce qui, des fois, certains chemins, plusieurs chemins peuvent mener à l'entrepreneuriat et font qu'aujourd'hui, voilà, on a décidé d'accompagner les personnes et que vous nous retrouvez aujourd'hui derrière le micro, en fait, de Radio Calade.
Tout à fait. écoute, je te propose de commencer, Lucie.
Allez, c'est parti. À l'épreuve du feu, vas-y.
Eh ben, d'où t'es venue l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Pourquoi ? Ton pourquoi ?
Ah, mon pourquoi. Eh ben, mon pourquoi est intimement lié, vous savez que je parle beaucoup de social, mon pourquoi est intimement lié aux causes sociales et à mon vécu aussi dans cette société. Comme je le disais, c'est toujours difficile, et je sais que pour certains ça va être difficile à entendre, mais d'être racisé dans un pays qui, même si il nous ouvre les bras et qu'il y a plein de personnes qui sont pas comme ça, et voilà, on peut aussi se faire notre petit « not all men, not all ». Voilà. Eh bien, il y en a qui le sont. Et ça peut être très difficile. Et dans les expériences que j'ai pu avoir, elles ont été diverses. Mais ça peut être vraiment difficile, pas juste au niveau du salariat, parce que ça, c'est quelque chose dans lequel je naviguais assez bien et qui m'allait assez bien, en fait. Mais c'était la manière dont les gens avaient de travailler. Moi, je suis quelqu'un qui peut se focusser énormément sur une tâche et essayer d'y aller jusqu'au bout. Et j'avais beaucoup de mal avec le côté détachement qu'on pouvait avoir au travail, la redondance des blagues et compagnie, mais aussi certaines blagues qui pouvaient être vraiment, vraiment lourdes, racistes et pas du tout intéressantes, et y compris de mes supérieurs, jusqu'à ce qu'on me dise « Écoutez, Lucille, moi, quand je vous dis de venir, vous venez, mais un petit peu comme un chien. » Alors que j'étais enceinte de ma première, après la grossesse extra-utérine, mais de ma première maintenant qui a 12 ans. Et simplement parce que j'avais demandé une demi-journée pour pouvoir déménager, accueillir les gens et faire en sorte au moins que la porte soit ouverte, il fallait que je vienne absolument. Et donc ce monsieur m'avait imposé, il y a eu un procès pour lui.
Ah oui.
Il y a des plaintes qui ont été portées par plus d'une vingtaine de personnes pour dépression, burn-out et des choses comme ça causées par sa personne. Et il a été du coup pas mis à pied, juste délocalisé. C'est intéressant comment fonctionne parfois la loi, en fait, de cette manière-là. Et donc, ce monsieur, du coup, m'avait imposé, même si dans mon métier de bibliothécaire d'orchestre, à l'époque, il n'y avait pas besoin d'être là, sur le terrain, il fallait fournir et être là jusqu'à la générale. Moi, c'est comme ça que je l'avais appris dans les orchestres nationaux, mais visiblement, dans ce conservatoire, ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait. Il fallait que je sois absolument là pour la préparation. Ok, que je sois là pour la générale, ok, il m'avait imposé de venir. Et quand je suis venue dans la salle de spectacle, en fait, il a tout fait pour que je me sente la plus inutile possible. C'est-à-dire dénigrer mon passage et dire « Non, mais c'est bon, Lucille. Non, mais oui, bien sûr. Taisez-vous. Allez, c'est bon. Voilà. Juste, est-ce que vous pouvez me rendre les partitions ?» Oui, allez, c'est bon. Voilà. Juste pour que je sois le larbin du coin. Et ça s'est passé comme ça jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il m'avait engagée avec... c'était fonction publique territoriale. Moi, je suis formée quand même sur deux choses, c'est-à-dire bibliothèque d'orchestre au niveau travailler dans un orchestre national et bibliothèque territoriale, donc travailler dans le secteur des bibliothèques. C'est deux métiers qui sont complètement différents, mais j'avais fait les deux formations, notamment une à l'ENSIB, l'École nationale des bibliothécaires et compagnie. Et en fait, c'était deux choses qui étaient complètement différentes et qui étaient là dans un seul métier. Donc c'était chouette, mais l'ambiance était pourrie, ouais. À un point pas possible. Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, où je me suis dit, j'ai plus envie de faire ça. Et ça a duré donc jusqu'au bout, où il m'a fait travailler comme ça, avec une promesse de ne vous inquiétez pas, de toute façon ça va vite se transformer, vous avez 3 mois, puis finalement au bout du 3e mois, on va refaire quand même, on va continuer un petit peu à faire un essai, on veut voir si vraiment vous en voulez. J'ai appris finalement qu'il avait simplement prolongé les mois pour qu'une autre personne puisse, qui était elle titulaire de son poste, avant de me titulariser, parce que ça fait pas bon genre, c'est-à-dire que les personnes maghrébines et les personnes racisées de toutes couleurs n'étaient pas prises sur ces postes-là. Elles n'étaient pas officialisées et titularisées sur ces postes-là, donc on faisait bonne figure jusqu'à ce que d'autres personnes puissent venir, et des personnes qui n'avaient pas du tout les compétences de venir.
C'est dingue.
Donc
c'est
j'ai
dingue
travaillé comme ça. Une dingue, c'est-à-dire j'ai quitté mon école des bibliothécaires, j'étais en haut de la promo en fait. Donc c'est pour ça que j'ai été aussi prise, j'avais le choix, soit faire de la bibliothèque à l'international et j'ai choisi de rester proche de ma famille et voilà, de commencer à faire la mienne. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai quand même regretté, parce que j'aurais pu discuter avec des bibliothécaires en Allemagne, en Australie, partout, d'aller en Égypte. Et en fait, non, je suis restée là pour me faire maltraiter de cette manière-là. Et j'ai considéré que c'était une des expériences qui a fait que, non. Du coup, quand j'étais enceinte, on remet beaucoup de choses en question enceinte, je me suis dit, moi, peut-être que je vais faire autre chose. Il se trouve que mes oreilles avaient quand même traîné, puis que mes oreilles traînaient quand même depuis petite sur la maternité. Alors, le fait d'avoir grandi sans maman, d'être amaternelle, c'est quelque chose que je développe aussi dans mes accompagnements, soit d'être amaternelle sous diverses formes, y compris le deuil blanc, c'est-à-dire d'avoir une mère qui était présente physiquement, mais complètement absente émotionnellement, qui fait partie des deuils blancs. Tu peux pas le dire. Tu culpabilises, t'as honte et en même temps tu t'aimerais juste que la personne disparaisse parce que t'en peux plus. C'est très dur ce que je vous dis, mais ça fait partie des psychotraumas, c'est comme ça. Et donc je les accompagne de cette manière-là et j'ai toujours eu une oreille attentive à ce que disaient les mamans. Les premiers pas qu'elles loupaient parce que le fonctionnement fait qu'elles doivent reprendre le travail très vite, l'allaitement qui s'arrête, ce genre de choses, la fatigue, les burn-out, la dépression. J'ai vu un petit peu l'envers du décor. J'ai toujours été une petite souris qui regardait en fait l'envers du décor. Et c'est des questions qui me tenaient à cœur. Donc quand je suis devenue maman, il y avait des choses pour moi qui se sont allumées, genre pas question. Hors de question que je vive ça, en sachant que, vu mon histoire personnelle avec ma propre mère et ce que j'avais pu voir de ce qu'elle avait elle-même expérimenté, en tant que femme, mais aussi femme noire racisée dans ce pays, je ne voulais pas expérimenter les mêmes choses. Et je voyais qu'il y avait une dissonance au niveau social et qu'il y avait quelque chose à... Il y avait des espaces à créer pour que les mamans se sentent à l'aise déjà de libérer leur parole, mais aussi d'être accompagnées à la mesure de leur peine, de leur souffrance, enfin surtout de leur douleur pour que ça ne devienne pas de la souffrance. Et donc je suis partie avec... parce qu'à la fin, ils ne m'ont pas gardée, bien sûr, ils ont mis quelqu'un d'autre. Hein, donc voilà, en me disant « ça va être dur le chômage ». Ça, c'était l'adjointe. J'ai trouvé ça très, 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 très bas. Mais elle aussi, les gens ont porté plainte contre elle. Donc finalement, voilà. Et aujourd'hui, les collègues, je sais que vous êtes vraiment soulagés là où vous êtes. Donc bravo à vous d'avoir tenu aussi longtemps. Parce que j'ai été derrière vous et j'ai vu que ça avait créé quand même pas mal de fatigue. Donc bravo à vous. Je tiens à le dire si vous écoutez l'émission. Je me suis dit, OK, je vais créer mon entreprise pour les mamans. Voilà. Je vais devenir maman, je vais étudier la question. On va essayer de se mettre là-dedans. Et donc ma première idée, c'était un café poussette. Un café poussette qui accueille les jeunes enfants, bien sûr, mais qui accueille les parents et surtout les mamans. Un endroit où elles peuvent se poser, un endroit où elles peuvent avoir un garage à poussette. Genre le truc, voilà, il y a un garage pour ta poussette. Il y a des boissons, il y a pas d'alcool, mais il y a des ateliers où tu peux apprendre. J'avais cette idée de, on nous apprend pas à être maman. Et parce qu'il manque le transgénérationnel. Et pour moi, il y a toujours eu ce truc-là de créer des cercles, de créer une école des mamans. Tu vois, il y a l'école des femmes de Molière. Il se trouve, je m'appelle Lucille Jourdain, donc au départ, donc ça m'a quand même bien fait rire. Mais J'ai toujours ça, dans cette idée-là, d'être dans la psychoéducation, d'être toujours dans ok, qu'est-ce qu'on peut développer comme solution pour accompagner les mamans, pour qu'elles arrêtent d'être dans cette souffrance, pour qu'on puisse voir et que ça soit normal, comme on le voit en Suède ou dans d'autres pays, que ça soit normal, en fait, ouais. d'être maman et d'être à l'aise avec sa maternité, quelle qu'elle soit, quel que soit le style de maternité qu'on a, en fait. Et donc, j'ai commencé un petit peu comme ça, BGE, tout ça, bon bref, c'est parti. Et finalement, je suis tombée enceinte de mon deuxième. J'ai fait, j'ai fait un service civique de lutte contre les discriminations avec la Ligue de l'enseignement. Bon, j'ai monté une bibliothèque, parce que je crois que là où je vais, je monte des bibliothèques, c'est mon truc. J'adore le catalogage. Même chez moi, vous verrez, il y a des, pour ceux qui viennent, il y a des bibliothèques et je monte des bibliothèques, j'adore ça. Pas les meubles, hein, vraiment de ranger, cataloguer, c'est mon truc. C'est comme ça. Il y aurait eu, dans le café, il y aurait eu une grande bibliothèque. Finalement, c'est dans mon cabinet, il y en a eu une énorme et les gens peuvent se servir et emprunter des documents et revenir et on en parle et tout ça. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis petite. J'avais noté, je veux être journaliste, sage-femme, chanteuse et bibliothécaire. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis tous ces métiers
ouais,
à la fois.
Ça réunit tout. Ouais.
Je réunis tout. Je n'ai pas eu envie de... C'était trop compartimenté pour moi. Et l'entrepreneuriat permet cette créativité. Bref, pour ne pas m'éloigner de ça, donc à la fin de la BGE, on fait... Donc j'avais fait des tests à la MJC Héritant. À l'époque, j'étais à Mâcon. Et j'avais un samedi par semaine qui était ouvert où je pouvais monter mon café poussette. In situ, dans le café de la MJC, avec accueil, avec des artistes, mais genre concert ouvert. Genre, les artistes font un concert, puis à un moment donné, chose qu'on ne voit jamais, ils font une pause au milieu du spectacle. Et en fait, je dis, bah oui, mais quand est-ce que vous allez allaiter, changer les bébés, tout ça là ? C'est maintenant. Ouais. Donc les musiciens font une pause, parce que c'est aussi un métier éprouvant et qu'ils ne sont pas là que pour divertir et que vous pouvez leur poser des questions. Mmh. Et surtout, les enfants peuvent aller poser des questions aux artistes. Surtout, ils peuvent poser toutes les questions qui se posent. Mais pourquoi il a fait ça dans le spectacle et que les parents font chut, chut. Non, on apprend les codes ouais. sociaux et la vie sociale en aiguisant la curiosité des enfants. Et moi, ça a toujours été ça. C'est comment est-ce qu'on gère cette relation interhumaine, tu vois, interpersonnelle. De les enfants ont besoin de poser des questions, ils ont besoin qu'on réponde à leurs questions et parfois qu'on réponde à leurs questions en disant je sais pas, pour que eux-mêmes puissent trouver leur solution. Donc pour moi, c'était important qu'il y ait des ateliers comme ça où les enfants peuvent faire ça, où les petits bébés peuvent être changés au moment où ils doivent être changés, où la porte de la salle de concert est ouverte et où les mamans peuvent sortir en disant « mais c'est bon, là je vais déranger personne ». Non, maman, il y en a plein comme toi. Tu prends ta poussette, tu vas changer ton bébé, tu reviens, il n'y a pas de souci. J'avais apporté un chauffe-biberon, j'avais apporté tout le nécessaire. Et mon mari était derrière le bar fictif, en train de servir des cafés, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a eu quelques papas qui sont venus, ça m'a fait vraiment plaisir. Et ils ont pu commencer à échanger. Parce que pour moi, il n'y a que par l'agora, que par la discussion, que par le fait de se réunir et de poser nos paroles, aussi longues soient-elles, que l'on peut véritablement avancer dans notre société. On est dans une société qui ne permet pas ni l'émotionnel d'émerger, ni la parole de vraiment se structurer. Et donc, on se retrouve face à des gens qui sont « Non, mais moi, tu sais, j'aime pas trop parler en public, j'aime pas trop dire ce truc-là, j'aime pas trop... » Toi, t'as pas trop envie d'être vu parce qu'on t'a dit qu'il fallait pas que tu sois vu.
Ouais,
et là, je voulais créer un espace où les enfants étaient vus, étaient entendus, les femmes étaient vues, étaient entendues, et les papas pouvaient toquer et faire « Moi aussi, j'ai besoin de faire une pause parce que moi aussi, j'ai des choses à exprimer et puis j'aimerais bien avoir un cookie. » Bon, donc j'ai eu plusieurs choses. Manque de peau. J'avais pas développé toutes les compétences que j'ai aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais développer un café poussette, j'en sais rien, j'ai plein de projets. Non. Là, viser surtout à la sortie du magazine The Help, Devenir maman sans maman, où je crée mon propre magazine pour accompagner toutes ces amaternelles, comme je les appelle, et qui ont peut-être besoin d'avoir des tips. Et puis les papas qui élèvent des petites filles tout seuls et qui se disent, comme ça a été le cas pour mon papa, je sais pas comment faire en fait.
Ouais.
C'est quelle marque de shampoing ? C'est quelle marque de serviette ? C'est quel spécialiste il faut aller voir là à tel endroit ? Pas que les papas savent pas quoi faire, mais on peut être vraiment démunis. Et parce que maman, elle faisait comme ça. Oui, maman faisait comme ça, mais maman n'est plus là, en fait.
Ouais,
et
ça.
Du coup, devenir maman sans maman, ça peut aussi aider les papas à dire « Moi, j'ai le magazine à côté et dedans, je vais glisser quelques petits trucs pour les jeunes filles. » Parce que moi, comme je faisais quand j'étais petite, de « Regarde ça, ça peut t'aider. » Ouais. Non, ne te fais pas les sourcils comme ça, ça ne réussit pas. La mode des années 90 ne marche pas. Par exemple, c'est un tuto. Même si on a des revival, ne fais pas ce genre de choses. Donc ça va être le magazine. Mais peut-être que ce magazine prendra place dans un café poussette parce que maintenant, j'ai développé les compétences en chant prénatal, en éveil musical, en psychologie, enfin bref, voilà. Et j'avais fait appel à d'autres personnes. Et il se trouve que quand on a fait le business plan, avec la comptable de la BGEF. Alors, votre projet, il est génial. Simplement, vous n'allez jamais vous rémunérer. Vous n'allez jamais être à perte, hein. Vous allez juste être à zéro.
Ouais.
Regardez le tableau. Je ne gagnais rien, je ne perdais rien. Je payais tout ce qu'il fallait pour le café. Mais juste parce que je payais d'autres personnes à côté pour développer les activités, c'était pas possible. Et je me suis posé la question, parce que c'est encore une compétence que j'avais pas développée et qu'aujourd'hui, autant vous dire que je suis bien aguerrie, je savais pas ce que j'allais faire de mes enfants. Mon mari est musicien professionnel, il partait quand même beaucoup à cette époque. Mais ouais, mais moi si je tiens un café, les emmener à l'école s'ils sont malades, s'ils sont tel truc et si je suis la seule gérante, comment je fais en fait? Et donc là j'ai fait, on va mettre en stand-by, on va garder une association qui est encore d'actualité aujourd'hui et qui est là dans mon village à essayer de créer du lien. Ça sera toujours mon mantra, créer du lien, parce que tout ce qui a été cassé, fissuré dans le lien se recrée dans le lien. Il n'y a pas d'autre chose. Ouais. Je suis profondément adlérienne. Vous m'entendrez beaucoup parler de Adler parce que je ne suis pas freudienne. Je suis beaucoup dans la psychanalyse, mais je suis dans la psychanalyse adlérienne. Je vous recommande de le lire parce que c'était un dissident de Freud et tout ce qu'on peut entendre sur la psychanalyse et sur le fait que les conversations qu'ils ne mènent pas parce qu'ils font juste notifier par des petits bruits qu'ils vous entendent, ils vous laissent poursuivre. Adler, c'était pas ça du tout. Et c'était un précurseur et aujourd'hui, on l'utilise aussi dans la psychologie positive et la psychologie relationnelle. Donc moi, je vais parler beaucoup de contribution. Mais déjà de trouver sa place, trouver nos propres valeurs pour pouvoir contribuer dans la société. Et je le vois déjà avec les enfants et de répondre de manière physiologique et d'écouter ses propres saisonnalités aussi. Donc je suis partie à la campagne ensuite. Voilà. Et j'ai continué avec cette idée de développer une entreprise parce que j'avais plus envie de tomber sur des gars comme ça qui me prennent comme une personne d'une certaine époque à qui visiblement il était toléré de donner des coups de fouet et de traiter n'importe comment. Voilà. Je le dis de manière très brutale, mais en fait, je sais que ça arrive à plein de personnes aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas la seule. Et si j'ose ouvrir ma bouche aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'on n'est pas que je ne suis pas la seule. Et qu'il faut le dire, en fait, parce que c'est un délit. Voilà. Il y en a qui vont dire que c'est une opinion. Que je ne sais plus quel ministre disait que l'islamophobie était une opinion. Non, c'est un crime. Mmh. C'est une discrimination. Pour avoir travaillé à la Ligue de l'Enseignement, anciennement Fédération des œuvres laïques, pour avoir travaillé à l'époque de Charlie Hebdo, pour te dire, à l'époque de Charlie Hebdo, aller faire des interventions, on a appris les attentats de Charlie Hebdo, on est intervenu dans l'après-midi dans un collège. Oui. Donc, voilà, in situ, ça fait partie des discriminations. À mon époque, il y en avait 19, maintenant, je crois qu'il y en a 22. Les discriminations sont passibles d'emprisonnement. Ça n'est pas une opinion. Si on te juge pour tes opinions religieuses, pour ta manière d'être physiquement, si tu es roux, si tu es noir, si tu es blanc, si tu es de n'importe quelle couleur de l'arc-en-ciel que tu sois, de n'importe quel genre que tu sois, si on te juge à ce moment-là, c'est passible d'emprisonnement et il y a une amende, c'est tout. C'est pas une opinion, c'est un délit. Et je pense que c'est important de le dire, c'est un délit. Donc faites attention à ce que dit votre bouche. Ce n'est pas parce que vous avez été éduqué d'une certaine manière que ça veut dire que cette éducation est bonne et propre à dire partout. Voilà, la religion ou les autres choses, c'est pour soi. C'est intime et ses opinions, c'est vulgairement parlant, c'est comme son sexe. On ne le montre pas à tout le monde.
Oui, voilà. Exactement.
Donc l'entrepreneuriat m'est venu comme ça.
Ok, bah dis donc, il y avait de quoi raconter. Hein.
Effectivement.
Et puis moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'en fait, tu as eu double discrimination.
Oui.
En plus de ça, tu es une femme.
Oui.
Et une femme dans le monde du travail, on sait que c'est encore très compliqué.
Et une femme dans le monde du travail qui, en plus, a ce truc-là d'être... je ne suis pas zélée, je ne suis pas quelqu'un qui fait du zèle, mais je suis une bosseuse.
Ouais.
Je suis une vraie bosseuse. Et je pense que c'est ce qu'on retrouve aussi dans mes consultations, c'est que... Mais Lucille, mais attends, mais t'es là tout le temps, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, tu nous fais un workbook, là tu fais... Oui. Oui, parce que je considère que le soin, je considère que le travail, c'est premium. Ça doit être fait, tu vois, on en parlait tout à l'heure sur les émissions. Non mais Lucille, il n'y a pas besoin que ce soit un truc niveau... Si, parce que ça va dans les oreilles des gens.
Ouais.
Et qu'on donne... Je ne veux pas qu'on donne n'importe quoi. C'est ce que disait Charlotte Mason, on donne un festin aux gens. On ne leur fournit pas de la merde, en fait.
Oui.
Ça, ils en ont tout le temps. Ça, ils ont juste à tourner CNews pour voir un petit peu du caca. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas des choses de qualité? Et pour moi, ce qui est fourni à Radio-Canada, par exemple, c'est de la qualité. Donc, on fournit de la qualité et on y passe du temps. Et des fois, ça prend plus de temps que prévu, mais c'est de la qualité. Et je suis focus sur ce genre de choses. Le problème, c'est qu'en étant une femme qui y arrive, qui a pour te dire, à l'école, on m'appelait Bétis et tout, parce que, en fait, j'étais toujours dans l'interaction. Moi, ce qui m'a sauvée à l'école, des discriminations et compagnie, c'est de participer. C'est quand un prof de maths m'a dit, Lucille, t'es extrêmement... Tu peux y arriver. Juste, t'es super timide. T'as peur de dire ce que tu penses ou de poser des questions. Bien au contraire, pose toutes les questions. T'es justement à l'école pour pouvoir poser toutes les questions. Donc, à ceux qui croient que mes enfants font l'instruction en famille parce que je suis contre l'école, pas du tout. Mon père était prof et j'ai un grand respect, un plus profond respect pour les enseignants et ce qu'ils vivent actuellement. Il y a des choses justes que je ne corrobore pas parce que je pense que c'est de la maltraitance faite aux adultes. Et ça, je suis pas d'accord. Donc, je participe pas. Tout simplement. Je préfère le dire aussi. Mais n'empêche que ce prof-là, ces profs-là, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont jalonné mon parcours, m'ont dit « ose parler et fais-le ». Mais parce que j'osais parler, parce que j'osais poser des questions, et parce que je progressais en posant des questions, on m'appelait Bétis et tout. Ou l'avocate. Eh bah oui, bah Bétis et tout, n'empêche que l'avocate, et bah en fait, à un moment donné, bah elle a été déléguée de classe. Et du coup, elle a pu sauver un peu tes fesses, donc... C'est peut-être cool, en fait, de participer. On a tous chacun notre place. Je suis arrivée dans le monde du travail et j'ai retrouvé les mêmes choses, la même compétition. Et un maître d'apprentissage qui est censé t'apprendre quelque chose, il dit non, moi, je t'apprends rien. Ah bon ? Mais pourquoi ? Et qui va se plaindre et qui va, en fait, te mettre ses propres erreurs sur le dos alors qu'en fait, toi, tu sais que tu l'as très bien fait. Mais alors, tu te dis, bah non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Et moi, j'ai certaines valeurs. Et je pensais que, naïvement, à cette époque, je pense que j'étais naïve, qu'on avait tous à peu près les mêmes valeurs et le même respect. Liberté, égalité, fraternité, je les ai vraiment chevillées au corps, celles-ci. Donc pour moi, c'était, voilà, on se traite avec respect et ça va bien se passer, quoi.
Mais déjà rien que ça, liberté, égalité, fraternité, enfin, égalité, enfin... Pour moi, l'égalité n'a rien à voir là-dedans. Enfin, on ne devrait pas parler d'égalité, mais d'équité, enfin...
Je pense qu'on devrait parler d'égalité devant de droit.
Oui.
Comme c'est dit dans la loi. De toute façon, la loi française, là-dessus, ce qui a été établi au départ, les droits de l'homme et du citoyen, qu'on les appelle comme ça ou pas, on s'en fout. Mais c'est important, quoi. Juste la première ligne, juste les cinq premières lignes, c'est fondamental. C'est génial ce qui est écrit là-dedans. C'est une des plus belles choses qui a été écrite. Il suffit de la regarder, quoi. Donc, si, liberté, égalité, fraternité, et rajoutons équité.
Ouais, je pense qu'il y a cette notion d'équité quand même qui n'apparaît pas et qui devrait apparaître quelque part.
Parce que je pense qu'elle est induite dans fraternité, en fait. Ouais. Équité, ça devrait être dans fraternité.
Ouais, mais ouais.
Solidarité devrait être dans fraternité. Empathie.
Oui, ouais,
bah, c'est vrai. Enfin, bref, en fait, je pense que ces trois-là sont très bien choisis et qu'en sous-dossier, si on regarde bien la loi... C'est dedans.
Ouais, mais le problème, c'est que les gens, ils regardent pas le sous-dossier, quoi.
Non, mais je pense que c'est important. Ouais. Et quand t'es citoyen français, tu regardes. Ouais. Quand t'es citoyen d'un pays, tu regardes. Ouais. Tu fais attention à ce qui est écrit et tu respectes. Parce que ça fait partie de tes droits fondamentaux et ça fait partie de tes devoirs. On est tous allés à l'école, on l'a tous appris. Ouais. Donc on arrête un peu de se moquer les uns des autres. Parce que sinon, on se manque de respect à nous-mêmes et c'est pas cool. Le problème, c'est que... On a tellement peu d'estime pour nous-mêmes que on respecte pas ça. Sur ces mots, je vais lancer... La musique.
Mine.
êtes sur Radio Calade, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Merci Lucille d'avoir partagé ton parcours et ton pourquoi de l'entrepreneuriat.
Avec grand plaisir.
C'était très, très chouette et très enrichissant, je trouve. C'est toujours de toute façon enrichissant d'entendre les parcours des uns et des autres. Moi, j'adore.
Bah oui. Surtout que, voilà, c'est, on le disait hors antenne, c'est riche. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de... Puis au fil des années, quand on avance dans l'entrepreneuriat, il y a des choses qu'on revoit. Il y a des choses qu'on revoit avec l'âge. Il y a des choses que moi, j'ai revues aussi avec la maternité. D'accepter aussi les chemins choisis. Parce que finalement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec ça, ce petit coup de pouce-là. Mais après, axée véritablement sur les mamans, c'est dernièrement. Oui. Enfin, c'est parce que j'avais que des femmes qui débarquaient. Parce que après, j'ai donné des cours de chant et d'éveil musical, je ne voulais plus entendre parler de bibliothécaire d'orchestre, quoi que ce soit, ou quel que soit, ouais. Voilà. Juste ranger mes documents chez moi, c'était suffisant. Et puis, en fait, je me suis aperçue que toutes les femmes qui venaient me voir avaient grandi sans maman, certaines dans la violence, beaucoup dans la violence, et que c'était difficile pour elles, et qu'elles venaient pour essayer d'exprimer quelque chose, parce qu'elles avaient besoin que leur parole soit entendue. Et encore une fois, on revenait sur cette parole qui devait être entendue, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me dise, écoute Lucille, ce que tu fais, et elle et son enfant venaient aussi, ce que tu fais pour nous, c'est pas des cours de chant, c'est de la thérapie. Et là, il y a une espèce d'ampoule qui s'est allumée, où moi j'avais pris le virage de bibliothèque d'orchestre, tu vois, bam, c'est parti, je vais aller là-bas, je vais faire l'ENSIB ou l'école des chartes et tout ça. Et en fait, il y a l'ampoule musicothérapie qui s'est allumée avec ma prof, Madame Lafonchouret. Je vous fais une petite dédicace aussi, parce que je continue de manger des kiwis et je ne cours pas derrière le bus comme vous, mais punaise, qu'est-ce que vous m'avez appris aussi. Et qui nous avait parlé de la musicothérapie et à quel point ça pouvait être révolutionnaire et que ça pouvait aider de nombreuses personnes, en fait, qui avaient du mal à verbaliser. Et donc là, je me suis dit, je m'étais formée à la pédagogie Montessori, je vais me former à la musicothérapie. D'autant que mes enfants avaient vécu ce qu'ils ont vécu à l'école Montessori et que du coup, je commençais à m'orienter psychotrauma grave. Et je me suis dit, peut-être que ça vaut le coup d'en apprendre davantage sur la psychologie, la psychopathologie, neurophysiologie. Allez, c'est parti, on y va. Et donc, je me suis formée auprès d'Alain Carré, qui est décédé cette année. Donc, une pensée aussi pour sa femme. Et qui m'a appris l'humanité encore plus, fois mille, de comment est-ce qu'on prend soin des gens, comment est-ce qu'on... On abat du travail, on met du taf, quoi, pour de vrai, dans ce qu'on fait, pour que les gens avancent. Et c'est comme ça que j'ai envie d'être entrepreneur. Voilà. Quand je parle des enseignants, c'est des personnes qui m'ont enseigné aussi la manière de vivre et d'être entrepreneur aujourd'hui. Il y en a certains qui se sont cramés, il y en a certains qui ne sont plus là. Mais par contre, est-ce qu'en partant, ils ont regretté? Je ne suis pas sûre, parce qu'ils ont donné pour de vrai. Il y a des gens qui ont fait des choix de vie, genre qui enseignaient au CNRS, qui ont décidé de venir enseigner à la fac, ou alors de faire un petit truc à côté, parce que c'est comme ça qu'ils avaient envie de choisir leur parcours. Et j'ai été face à des gens qui ont choisi leur parcours. Et ça a peut-être mis du temps, ça a peut-être été difficile, mais n'empêche qu'ils ont véritablement choisi. Et moi, c'est toujours comme ça que je ferai mes choix et que j'accompagnerai les personnes que j'ai avec moi. Voilà, donc voilà tout mon pourquoi. Maintenant, vous savez tout. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette direction-là et que j'ai plein d'étiquettes. Voilà. Alors après, peut-être qu'on dira que je suis multipotentielle, mais ça, c'est je m'en fous complet. Parce que cette étiquette-là, je m'en fiche. Elle ne me définit pas. Elle me complète. Je peux dire aussi que je suis générateur 4-6. C'est en human design. Enfin bref, je suis capricorne, ascendant, je ne sais pas quoi. Non, je suis moi et c'est comme ça que j'ai envie d'avancer dans ma vie. Et c'est aussi comme ça que j'ai envie que mes enfants me voient avancer dans la vie. Comme une maman qui est résiliente, à qui peut-être il est arrivé des choses pas cool, peut-être qu'eux aussi leur arrivaient des choses pas cool, mais ils sont en capacité de toujours trouver du positif et de toujours choisir. Des fois, les choix sont pas faciles. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choix qu'on peut faire.
Ouais.
Voilà.
Moi, je rajouterais aussi que l'entrepreneuriat, c'est une évolution constante.
Ouais.
On part avec une idée de projet.
Oh, oui.
Mais en fait, ce projet-là, il évolue continuellement.
Il évolue avec l'âge.
En fait, il grandit avec nous, c'est ça.
Je trouve que c'est pour reprendre une expression mais que j'avais entendue dans mon podcast à l'époque, c'est une essoreuse à salade, mais vraiment. Ouais. Dans le sens où... Waouh! En fait, si t'as pas envie de travailler sur toi, de faire du développement personnel, de travailler la psychologie, de faire de la thérapie, ne va pas dans l'entrepreneuriat.
Ouais, carrément.
Parce que tous les jours, t'es confronté à toi. T'es confronté à ta part d'ombre. Genre, est-ce que là... Tu vois, bah, par exemple, c'est est-ce que je communique suffisamment bien ? Ça, c'est ma part d'ombre. C'est genre, est-ce que dans l'intimité... Parce que à l'extérieur, je communique, il n'y a pas de problème. Mais là, dans l'intimité, est-ce que je communique suffisamment bien ? Est-ce que j'ai suffisamment de patience ? Est-ce que ça te met en lumière tous les points d'ombre que tu auras envie de mettre dans un tiroir ? Tu n'as pas envie d'entendre parler ? Eh bien, ça, c'est comme Harry Potter, le truc qui se secoue, genre, je crois qu'il y a quelque chose dans votre tiroir. Bon, ben, on va y aller, parce que sinon, en fait, le truc va m'exploser à la figure. Et quand ça explose à la figure, ça fait vraiment mal, pas qu'à toi, mais ça fait mal aussi à ton entreprise et autour. Et ton entreprise, c'est comme un enfant, c'est comme une plante. Tous les jours, tu dois le nourrir. Donc, tu dois te nourrir, toi, sur ta confiance, sur ton estime, sur tes propres valeurs. Ça vient retravailler sans arrêt tes valeurs. Moi, je me faisais payer 8 euros de l'heure au début. Tellement j'avais été cassée dans mon estime de moi, en fait, en grandissant. Je me payais 8 euros de l'heure. Qui est payé 8 euros de l'heure ?
C'est même pas le SMIC.
C'est même pas le SMIC. Mais moi, j'étais là et on me disait, mais c'est trop cher. Là, j'ai compris après le système de cible, de prospect et de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et les choses que j'ai pu apprendre aussi. C'est pas d'être trop gentil, c'est juste d'avoir tellement peu d'estime de toi que t'acceptes tout le monde et que t'acceptes d'être la serpillière de tout le monde. Et que j'avais finalement accepté d'être la serpillière de tout le monde parce que j'avais pas d'estime de moi. Donc là, il était temps de retravailler ça. Mmh. Et aujourd'hui, si vous allez sur mon site, mes tarifs ne sont pas les mêmes. Et c'est pas surévalué. C'est parce que là, en plus, après, on est constamment... Moi, j'ai fait du coaching, du coup, derrière.
Bah oui.
Je me suis fait accompagner. J'ai vu plusieurs thérapeutes. J'ai fait du coaching derrière sur, OK, la gestion d'une entreprise, en fait. Et qui me disent, là, maintenant, tu vas regarder sur ton tarif horaire. Et j'ai fait mon tarif horaire. Oui, le travail que tu fais... Coucou les profs, je vous le dis juste. Le travail que tu fais en dehors de tes consultations, en dehors de vos cours, le travail que tu fais à la maison, la préparation, et puis le travail après, de retour sur toi. Coucou les profs. Voilà, augmenter le salaire des professeurs, merci.
J'ai écouté un podcast ce week-end d'un professeur que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, et j'adore sa pédagogie. Et justement, qui expliquait que lui, il bosse plus de 50 heures par semaine.
C'est ça. Moi, j'ai grandi avec un papa qui travaillait plus de 50 heures par semaine et qui n'arrêtait pas de changer ses cours tous les ans. Donc, on va arrêter de traiter les profs de fainéants parce que c'est pas vrai.
Ils ont pas de vacances scolaires.
Ils n'ont pas de vacances scolaires et d'ailleurs, ils se forment aussi pendant leurs vacances scolaires. Ce serait intéressant d'ailleurs de peut-être faire comme en Suède et d'octroyer un budget. Ma collègue en Suède, qui est musicothérapeute, elle a pu avoir sa formation de payer. Une formation à 10 000 euros. J'ai pas payé 10 000 euros, mais je vous dis, elle a payé 10 000 euros pour cette formation. Ça a été pris en charge par son collège, où elle était prof de français, parce qu'il considérait que c'était une valeur ajoutée dans l'enseignement pour pouvoir aider la régulation émotionnelle des enfants.
Mais malheureusement, Lucille, là...
Le dis.
Non, mais c'est super. Mais on n'aura pas suffisamment de temps pour refaire tout le système scolaire.
Non, ce ne sera pas pour refaire le système scolaire, mais c'est juste penser où est-ce qu'on met nos sous réellement et qu'est-ce qu'on fait.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est pour ça que je parlais de mes tarifs, parce que je pense que c'est quelque chose j'ai mis du temps à accepter. Mais le tarif horaire dans l'entrepreneuriat et en tant que femme, je pense que peut-être que tu me rejoindras là-dessus, fixer ces tarifs quand tu es une femme...
C'est dur.
Voilà.
C'est super dur. Et puis, en plus de ça, tu as l'entourage qui dit « Ah non, mais t'es trop cher, t'auras jamais personne. »
Oui.
Moi, je payerai pas, je payerai, mais...
Non, mais ton truc, en plus, t'es ultra niché, là. Attends, mais personne va te repérer. Franchement, c'est comment ça peut être possible que personne ne soit repérable ? On est combien sur cette terre ? Combien sur cette terre ? S'il y a des mecs qui ont réussi à vendre la frite qui flotte dans les piscines... Non, mais je suis désolée.
Non, mais oui, tout
moi,
à fait.
Moi, c'est l'exemple le plus probant. Il y a des mecs qui utilisent... On utilise tout le temps les frites à la piscine et à la plage. Le gars, il va très, très bien.
Ouais.
Et son truc, a priori, franchement, c'est juste du polystyrène qui flotte.
C'est ça.
Donc, qu'est-ce qui est inutile et qu'est-ce qui ne sert pas ?
Ouais, de toute façon, on a notre cible et notre cible... Elle cherche cet accompagnement. Si elle fait appel à nous, c'est qu'elle est en recherche.
Ouais, mais tu sais, comme on est des femmes et qu'en plus on fait de l'accompagnement et qu'on fait de la thérapie, moi je fais de la thérapie, et ben du coup il faudrait que je sois Mère Teresa. Ouh, peut-être pas le bon prénom à utiliser en ce moment avec toutes les affaires, mais bon, bref. Allez voir un petit peu, vous comprendrez. Mais n'empêche que on espère de nous qu'on soit. gentil, affable, à l'écoute, pas cher.
Ouais, c'est ça.
Gratuite. Ouais. Je donne gratuitement les choses parce que, voilà, toi, mais on s'en fiche, tes enfants, ils n'ont pas faim.
Non, bah non.
Voilà.
Évidemment.
Donc, je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti comme ça, mais voilà, ouais. Ce petit truc.
Après, c'était moins prononcé que toi quand même, mais voilà, j'avais eu ce genre de retour. Notamment, je pense à une ancienne voisine qui m'avait dit « Ah, mais moi, je ne payerai jamais 50 euros pour me faire accompagner. » Parce qu'à l'époque, je prenais 50 euros pour un accompagnement d'un mois avec un rendez-vous.
Tu sais,
vous dire.
Pour l'accompagnement d'un mois avec un... Ouh là là.
Ouais.
Ah oui.
Voilà.
T'as relevé les choses après parce que...
Oui, non, mais j'ai retravaillé tout ça. Et puis, avec l'expérience et puis les formations. Et forcément, t'es obligé de revaloriser tes tarifs. Mais voilà, elle m'avait dit « Mais jamais je payerai... Ouais, mais parce que, en fait...
Faut inverser les choses.
Tu n'es pas ma cible.
Oui, non, mais il y a aussi le truc de « jamais je paierai 50 euros ». Ça veut dire que peut-être que tu n'estimes pas que tu vaux ça.
Ouais.
Que tu vaux la peine de mettre 50 euros. Moi, après, quand on m'a dit les sous qu'on mettait pour aller chez le coiffeur... Moi, j'ai des locks, j'ai choisi mon camp, je suis désolée, j'ai choisi mon truc. Parce que quand on faisait des mèches, c'était 150 euros, moi, pour ma tête, et passer 10 heures sur un siège. Ouais. D'accord ? Ça veut dire que les dames, elles étaient quand même payées pas beaucoup. Et que moi, je repartais avec mes 10 paquets de mèches et compagnie, et que je mettais ça sur ma tête. Bon, bref, ça, c'est un truc personnel de coiffure afro. Mais quand j'allais voir mes amis et que je savais que, du coup, elles allaient passer 50 balles pour refaire un peu, un petit truc, un petit rafraîchissement de la coiffure, une petite coupe, machin, et que je voyais combien c'était. Une manicure, aujourd'hui, combien ça coûte. Un hôtel, combien ça coûte.
Un smartphone.
un plein de voitures.
Ouais. Là, malheureusement, on n'a pas trop le choix.
Voilà. Et là, quand on parle... Une spécialisation. Avoir un médecin spécialisé qui n'est pas forcément tout le temps remboursé.
Ou complémentaire.
Voilà. Mmh. Ouais, et là, juste ce prix-là, pour votre propre santé, c'est pas possible. Bon, il y a un problème.
Ouais, mais parce qu'on est dans une société où la médecine est remboursée.
Oui, mais la médecine, alors, à juste titre. Alors, encore une fois, tu vois, je parlais du fronton liberté, égalité, fraternité. La médecine et tout ça, c'est remboursé. La Sécu, ça a été mis en place par la suite, après le Conseil de la Résistance. Faut pas déconner, il y a quand même des trucs dans notre histoire qui font que, oui, c'est indispensable que ça existe. Et s'il y a des gens du monde entier, y compris pendant les JO, qui sont super contents de se faire soigner leurs dents d'une certaine manière et d'avoir accès à ce que nous, on a, c'est pas pour rien. On est dans un pays... J'ai été très claire. J'étais une femme, je suis encore une femme qui peut être racisée. Par contre, je sais quelle chance j'ai d'être née dans ce pays et de grandir dans ce pays. Et je sais ce pourquoi d'autres personnes avant moi se sont battues, en fait. De n'importe quelle couleur que ce soit. Donc, la Sécu, ça n'est pas pour rien.
Ah ouais,
si y a la disparition de la Sécu, on va devenir un truc... Je ne sais pas si tu as vu l'acteur de Dawson qui est parti malade, enfin, qui est décédé là, en février, avec des dettes par-dessus la tête, parce qu'il est aux États-Unis, en fait. Oui. Et que ce n'est pas parce que tu es une star de télé que, du coup, tu as les moyens. Il y en a deux comme ça qui ont dû faire, après, des cagnottes, comme nous, on a des cagnottes litchi, pour pouvoir payer, en fait, leurs dettes, alors qu'ils étaient morts.
Mm.
Donc, si ça, vous avez envie que ça soit comme ça, mais continuons dans cette voie. Mais après, il y en a d'autres qui ne sont pas encore remboursés, qui ne sont pas encore remboursables. Il y a des accompagnements, il y a des choses qui sont encore approuvées et compagnie. Il se trouve que nos métiers ne sont pas forcément remboursés, ça dépend, en institution. Les mutuelles peuvent... Les mutuelles remboursent une partie de mes prestations, donc c'est tout à fait possible aussi. Il suffit de voir avec quelle mutuelle. Il y a une époque, j'avais répertorié les mutuelles, puis il y a eu un changement. Du fait qu'il y avait un souci avec la naturopathie et compagnie, il y a eu ce changement, mais je m'étais vraiment attelée à répertorier toutes les mutuelles qui le faisaient, à les appeler et tout. Là, maintenant, je ne ferai pas ça, pour vous dire à quel point je peux être focus et je fais le taf. Là, non, clairement, je ne le ferai pas, parce que je ne vais pas non plus me surexploiter pour pouvoir aller chercher ça, mais... En se renseignant, la plupart de mes patientes, il n'y en a eu que certaines. Bah non, en fait, ce n'était pas possible. Mais c'est possible, en tout cas, jusqu'à un certain point. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis, moi, depuis le début de ma pratique, j'applique des tarifs solidaires aussi.
Oui.
Vraiment pour les personnes qui sont en très grande précarité. Ça aussi, ça fait partie des trucs qu'on retrouve en psychologie analytique. C'est de mettre un tarif, certes. Mais par contre, si la personne n'a vraiment, mais vraiment pas les moyens, parce que je ne déconne pas avec ça, vraiment. Si la personne n'a vraiment pas les moyens, bien sûr qu'il y a un tarif qui est adapté et solidaire. C'est indispensable. Ouais. Ça ne dépassera pas les 50 euros dans un tarif solidaire, pour moi. Par contre, après, si votre situation change, on reste honnête, on reste authentique. C'est pour ça que moi, je fais très, très attention. Et on réévalue et on laisse la place aussi à d'autres qui pourraient vouloir en bénéficier. Donc moi, j'ai toujours 2 places par semaine qui sont en tarif solidaire. Et une fois que les accompagnements sont terminés, je le redis et voilà. Mais après, bah oui, c'est 90 euros la séance, en tout cas de l'heure avec moi. Et pour un accompagnement au mois, parce que je fais des accompagnements au mois, c'est-à-dire 4 séances d'une heure par semaine, plus ma disponibilité du lundi au vendredi de 8h30 jusqu'à 18h30. Voilà, donc ça, c'est plus le magazine The Help qui va sortir. Mais avant, c'était juste des e-books ou un podcast sur mesure ou ce genre de choses. Donc là, j'ai essayé de restreindre et de tout mettre dans un seul document. Mais en gros, c'est ça. Donc oui, ça, c'est un coût, la disponibilité. Et puis le fait que non, on n'est pas corvéable à merci et qu'il y a une éthique, il y a un code de déontologie, il y a des choses aussi. Et il faut veiller à tout ça, quoi. Donc l'entrepreneuriat, oui, ça nécessite aussi de parler d'argent. Je sais que ce n'est pas un sujet... qui est
en
forcément,
France, on n'aime pas. Hein.
On n'aime pas parler de combien ça coûte et compagnie, mais on aime bien montrer aussi combien ça nous a coûté
à
un moment donné. Mais en réalité, voilà. Moi, je le dis, je considère que le soin, c'est de l'accompagnement premium. Et les personnes qui sont en tarif solidaire ou qui sont en tarif simple ou qui sont en accompagnement intensif reçoivent de la qualité. Parce que tout le monde mérite d'avoir de la qualité. Et pour moi, c'est ce que je dis aussi sur mon site. C'est pas parce que t'as vécu de la... que ça veut dire que du coup, t'as pas le droit à du beau, du clinique et de l'utile. Donc, voilà. Bref. Une autre petite page musicale ?
Ouais. Nous sommes sur Radio Calade, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Du coup, voilà, merci encore Lucille pour ton parcours et puis pour cet échange qu'on a eu avant la pause musicale. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quand même une sacrée aventure.
Ouais.
Enfin, quand on se lance, on se dit « ouais, je vais vers la liberté ».
Ouais, la liberté à fond. Non, mais ça,
et quand t'arrives, non.
En fait, on choisit sa liberté.
C'est ça.
Et en choisissant notre propre liberté, il y a aussi le regard des autres, tu sais, sur... Enfin, je sais pas comment toi, tu l'as ressenti après, quand t'as choisi d'être entrepreneur et maman. Mais comment est-ce que on te regarde lorsque tu choisis cette liberté-là, tu vois ? De dire... toi, tu vas suivre ton rêve, tu vas faire ton truc, mais bon, tu rêves...
C'est pas ça, tu vois. Moi, c'est plus, de toute façon, toi, tu bosses pas.
Oui, moi, ça aussi. Ouais. Et du coup, j'ai dû me battre contre le fait de ne pas surbosser pour pas prouver que, du coup, je suis en train de faire... Déjà, que je suis déjà une surbosseuse. Alors, vous imaginez même pas jusqu'où j'ai pu partir. Genre, tu ne dors pas, tu ne manges pas. Tu prouves qu'avec tes 4 enfants, puis tout ça, puis hop, en plus, ils ne sont pas scolarisés, poup, c'est parti. Non, j'ai arrêté.
Ouais.
J'ai arrêté parce que j'ai rien à prouver à personne. Et puis surtout, encore une fois, la psychologie adlérienne m'a beaucoup aidée là-dessus. À partir du moment où tu deviens libre, il y a forcément des personnes qui ne vont pas aimer ta manière d'être libre. Donc, sois libre quand même, parce que de toute façon, soit ça veut dire qu'ils ne t'aimaient pas tel que tu étais avant et qu'ils voulaient que tu sois lisse, soit de toute façon, ils ne t'aimeront pas après. Et comme on ne peut pas plaire à tout le monde et que ça porte principalement sur leurs propres blessures...
C'est ça, c'est se détacher du regard des autres. Enfin, moi, aujourd'hui, j'en parle à qui veut l'entendre. Voilà, j'ai choisi et Bizarrement, ce n'est pas forcément la famille qui te soutient le plus.
Non, c'est pas forcément ton premier cercle, parce que le premier cercle a déjà a ses propres peurs. Il y a aussi des choses dans le transgénérationnel des personnes qui peut-être étaient artistes, mais qui n'ont jamais osé, même jusqu'à très tard, hein, qui se sont dit non, mais je vais faire ça, mais puis en fait, qui ne se lancent jamais. Ouais. Et ça peut être vraiment tout un truc familial, en fait, de dire non, sinon on n'est pas en sécurité. Et c'est pas de se mettre en insécurité de faire de l'entrepreneuriat, en fait.
Il y a quand même une certaine insécurité.
Mais regarde Clotilde.
Ah oui, mais totalement. Mais il y a quand même, tu quittes cette sécurité financière où tu as un salaire fixe qui tombe tous les mois et que quand tu es entrepreneur et surtout quand tu débutes, en fait, il y a des mois où tu n'as rien.
Ah bah oui, puis même des fois où en fait t'as pas débuté et où il y a rien, parce que les personnes ne sont pas là, parce que c'est les vacances, parce que tu joues, alors encore plus je pense dans l'accompagnement, t'as des saisons aussi, dans l'accompagnement, genre il y a des phases de creux où tu fais, alors là si j'ai pas fait mon prévisionnel super bien, juillet, août, ça va être long.
Ouais, c'est ça.
Mais tu joues après avec ces saisons-là, tu comprends, tu sais qu'après les résolutions du nouvel an, il y a beaucoup de personnes qui vont venir parce que c'est dur de tenir des habitudes, c'est dur de parce qu'il y a des schémas qui reviennent, parce que voilà, il y a des choses comme ça. Il y a aussi l'entrepreneuriat comme on l'imagine qui est lâché, craché comme ça, mais tu peux aussi faire partie d'un portage salarial.
Oui,
d'une coopérative.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait.
Voilà.
Je sors d'un an et demi, ça fait quand même quelques mois, je suis sortie du portage salarial. Qui m'a apporté énormément de choses et qui m'a aidé à me sentir légitime aussi parce que le syndrome de l'imposteur il est bien présent dans notre quotidien.
Il revient celui-là, moi j'aimerais bien dire la baisse d'estime de soi, on n'a pas d'estime de nous-mêmes, c'est pas de l'imposture.
Ouais, mais c'est ça. Mais quand on se lance, il est quand même vachement là, quoi. Il te colle à la peau, je trouve.
Il est là par les autres.
Pour ma part.
Moi, je trouve.
Pour ma part, il était ultra présent.
Ouais.
Et ça m'a beaucoup aidée à me sentir légitime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je recherche plus que je recherchais auprès de mon entourage, c'est-à-dire leur soutien.
Et là, leur propre reconnaissance, peut-être.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Parce que, de toute façon, j'avais un gros besoin de reconnaissance. Sur lequel j'ai travaillé, je continue encore de travailler.
Des fois, on va chercher aussi l'amour à travers ça de nos parents, de se dire, là, peut-être qu'ils vont voir que quand même, c'est cool ce que je fais, que je suis aimable, on construit peut-être des fois sur un manque, souvent même sur un manque.
Oui.
Et c'est pour ça que je dis que c'est une belle et heureuse salade et que ça fait travailler un peu aussi au niveau thérapeutique parce qu'il y a des choses, il va falloir accepter que cette situation-là ne changera pas. Les personnes en face de toi ne vont pas changer.
Non.
Et donc, quand potentiellement tes clients ou alors tes patients vont te dire non ou j'arrête, bon déjà c'est un travail que tu aurais dû faire avant, mais bon bref, si ça t'arrive, je dis ça pour ceux qui sont en train de se former, c'est pas contre toi, hein.
Non, c'est juste soit qu'ils sont pas prêts ou soit que...
C'est juste non.
On n'est pas la personne... qui leur correspond.
Et des fois, c'est toi qui diras, en fait, je ne suis pas la personne qui te correspond.
Exactement. Faut savoir orienter.
Ouais. Et ce jour-là, ça fait aussi partie des petites victoires où tu es capable de dire, non, je ne suis pas la personne vers laquelle il faut que tu te tournes.
Ouais.
Je peux te recommander quelqu'un d'autre, mais moi, non. Et d'avoir juste ce truc-là de se dire, oui, je ne suis pas... Enfin, hier, je le faisais encore, même en story, j'ai dit, non, moi, je ne suis pas spécialisée TDAH.
Ouais.
Je suis spécialisée psychotraumatologie. Donc, on va discuter de trauma, si tu veux, de soins relationnels. On va discuter périnatalité. Mais on ne va pas discuter de TDAH.
Ouais.
Parce que, même si je l'ai vu, va vers le spécialiste qui sait ça, qui peut te rencarder là-dessus, puis qui peut-être connaît d'autres collègues qui, eux, dans ta région, seront spécialisés là-dedans et pourront t'aider.
C'est ça.
Tu ne vas pas demander à un podologue d'être ton cardiologue. Bon, à un moment donné, il faut juste avoir cette humilité de dire non, j'accepte pas. Puis de refuser aussi quand la personne te manque de respect.
Oui, c'est ça. Ne pas accepter à tout prix, en fait.
Non.
On a de la valeur.
Mais c'est pas évident.
Ouais, c'est pas évident.
Ça revient te retravailler souvent.
Ouais. Mais parce qu'il y a cette histoire de notre valeur aussi. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est super importante. Comme pour toi, comme pour tous les accompagnants, pardon, c'est qu'il faut qu'on se fasse accompagner aussi.
Ouais. Ça, on parle beaucoup de la supervision,
important.
Mais moi, je parle d'accompagnement dans tous les domaines.
Ouais.
C'est-à-dire lire, écouter des podcasts, discuter avec d'autres entrepreneurs, avoir des groupes comme ça de personnes qui sont en train d'avancer aussi ou qui sont peut-être à un autre niveau, de se faire coacher aussi.
Ne pas s'isoler surtout, c'est...
Ne pas s'isoler, d'avoir des amis, de faire appel à ces trois cercles, j'en parle souvent, mais le cercle familial pour tel truc, mais peut-être pas pour autre chose. Le cercle des amis proches ou un peu éloignés, enfin voilà, cercle 2, les professionnels, cercle 3, voilà.
C'est ça. Voilà, garder ce lien parce que entrepreneur, c'est être sujet à l'isolement, clairement. Enfin, et aux difficultés qu'engendre l'isolement.
Au stress.
Au stress qui est en lien, entre autres, pas que, mais entre autres, à l'isolement. Parce qu'en fait, on est là, on a l'impression qu'on n'y arrive pas et que tout le monde y arrive et pas nous, alors qu'en fait, tous les entrepreneurs, ils ont galéré.
Oui, avec la comparaison permanente, avec genre, toi, tu as envie d'atteindre un objectif. En fait, tu crois que l'objectif de l'autre, là, qui a je ne sais pas combien de vues, qui a je ne sais pas combien de ventes, qui a je ne sais pas combien de personnes dans son cabinet tout le temps, c'est forcément là où tu dois être, là, tout de suite.
C'est ça.
Eh ben non, c'est le lièvre à la tortue. Et moi, je sais que j'accepte, mais grandement, maintenant, d'être une tortue. Parce que si ça m'arrivait pleine tronche, là, tu vois, je suis contente que ça arrive lentement et à la mesure, et où j'ai pu dire... Non, je ne peux pas dépasser ce nombre-là de patients.
C'est ça.
Tu vois, si j'avais tout accepté d'un coup, comme ça m'est arrivé il y a 2-3 ans, où du coup, là, il y a eu beaucoup de personnes, j'ai fait, non, là, concrètement, je peux aller jusqu'à 10, vu l'accompagnement que je fais, vu le mode de vie que j'ai, je ne peux pas aller au-delà, donc je vais mettre des listes d'attente, je prendrai ces personnes-là, mais ça ne va pas être... Je ne vais pas enchaîner les vingtaines ou trentaines de consultations, ce n'est pas possible.
C'est ça, il faut qu'on...
Et par jour aussi, combien faire ?
C'est important de rester sur la qualité de nos accompagnements, parce que si les gens ils font appel à nous, c'est aussi pour avoir la qualité. Et s'il n'y a pas la qualité, en fait, ça ne sert à rien.
Et puis après, tout ce que tu détermines derrière qualité.
Ouais. Oui, oui.
Parce qu'on n'a pas tous le même niveau de qualité. Oui. Moi, ce que j'estime être professionnel ne veut pas dire qu'il y a des choses où je vais dire oui, ok, on va travailler ça, puis finalement je vais me dire non, parce que ça n'est pas nécessaire. Et la personne va dire ouais, du coup elle m'avait promis ça, mais non, c'est parce que je pense que ça n'est pas nécessaire.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est d'accepter de ne pas être parfait, mais d'essayer de fournir
quand s'adapter.
Même. De s'adapter. Pour moi, s'adapter, c'est fournir cette qualité-là aussi.
Ça, exactement.
D'être toujours, toujours constamment avec ces personnes-là, avec l'humain, et de dire, OK, là, j'avais prévu tel truc, mon protocole, OK. Sur le long cours, ça va être ça, mais en vrai, au milieu, il va se passer plein de petites choses. Et peut-être que la personne, j'avais prévu, je me disais, allez, 6 mois, OK. Non, un an après, elle est toujours là, parce qu'au moment de partir... J'avais pas prévu, mais du coup, elle a remis les pieds dans une choucroute parce qu'elle avait peur de partir, en fait. Mm. Et du coup, non, on va retravailler ça. Puis finalement, en fait, 3 mois plus tard, elle est partie parce que c'était bon.
Ouais.
C'était juste la réassurance et de te dire, mais en fait, si, t'es capable. Mm. Voilà.
Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de j'accepte d'être une tortue. Moi, c'est un travail que j'ai fait il y a pas longtemps.
Ouais.
Parce que j'avais cette pression-là de l'entourage qui me disait « Oui, mais t'arrives pas à dégager un revenu, machin, mais du chouette et tout. T'arrives pas à en vivre. Ok, déjà, qu'est-ce que t'en sais que j'arrive pas à en vivre ? Qu'est-ce que t'estimes que j'ai besoin pour pouvoir en vivre ? Et moi, de quoi j'ai besoin pour pouvoir en vivre ? Il y a aussi cette notion-là. Et moi, j'ai trois enfants, comme je disais, trois enfants dits atypiques. C'est le mot utilisé actuellement qui tend plutôt vers la neurodivergence que je préfère, parce qu'en fait, on est tous différents, on est tous câblés différemment, et que même si on est dans une société qui voudrait qu'on soit tous câblés comme pareil, non, en fait, il y a des enfants qui ne sont pas câblés comme la société voudrait qu'on le soit. Et mes enfants en font partie, et j'en fais partie aussi, ce qui m'a permis aussi de mieux me connaître, de mieux savoir comment je fonctionne.
Toujours le plus important.
Exactement. C'est essentiel, d'autant plus quand on accompagne d'autres personnes, de savoir se connaître. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était pour pouvoir avoir la vie de maman aussi, qui puisse coller avec ma vie professionnelle. Parce que dans mon ancien job, c'était juste pas possible, parce que pour eux, on devait être 100% dans le boulot.
Ouais.
Sauf qu'à un moment donné, vu la scolarité que j'ai eue et que j'ai commencé beaucoup à me renseigner sur tout ce qui est neurodivergence et tout ça, je me suis dit, potentiellement, j'ai déjà une dyslexie qui était déjà diagnostiquée, j'ai sûrement autre chose. Pour le moment, à l'époque, je ne savais pas encore. Potentiellement, mes enfants, ils risquent d'avoir des difficultés à l'école. Et je veux pouvoir être disponible pour eux. Là où moi j'ai pas eu cette chance, parce que déjà on n'en parlait pas autant. Mine de rien, je me rends compte que j'ai bien fait, parce que aujourd'hui je me retrouve avec 5 rendez-vous par semaine pour mes enfants. Et donc j'en reviens au fait d'avancer comme une tortue, comme tu disais tout à l'heure. Je suis en phase d'acceptation que je ne peux pas être à 100% dans mon activité.
Aujourd'hui. Je pense que c'est pas être à 100% dans ton activité, c'est que moi je suis à 100% dans mon activité, mais je suis aussi avec mes enfants, dans le sens où c'est juste accepte ton rythme.
C'est ça.
Et c'est aussi la compréhension de il faut du temps pour intégrer les informations et que en fait on n'est pas de chat-dipitouille. Donc à un moment donné, c'est pas possible de mange, prends l'information, on recrache. Non, ça n'est pas possible. Ouais, il faut du temps pour pouvoir ingérer tout ça et aussi émotionnellement. Donc en fait, c'est une temporalité normale, sauf que quand c'est un autre patron qui te dit quoi faire au niveau de tes tâches, tu fais ta tâche.
Ah bah oui.
Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand c'est toi, ton propre patron, que tu dois intégrer ce truc-là, que tu as peut-être certains mécanismes qui reviennent et compagnie, bah en fait, oui, ça prend plus de temps. Ouais. Mais ça prend toujours plus de temps de se connaître et d'avancer et d'avoir l'entreprise qui, du coup, ressemble à ce qu'on a dans notre vie, là où on a envie d'aller, et puis qui correspond aussi aux personnes qu'on accompagne, tout simplement.
C'est ça.
Donc il faut être aussi, je pense que ça demande beaucoup, beaucoup d'honnêteté sur soi-même, de pouvoir oser le faire comme tu as osé le faire aussi. Donc,
après, c'est pas que je suis, enfin, quand je dis à 100%, c'est à temps plein. Aujourd'hui, j'ai accepté de ne pas être à temps plein sur mon activité parce que c'est juste pas possible et je suis en temps partiel. Par contre, c'est sûr que les moments que je consacre pour mon activité, évidemment que je suis à 100% dedans. Voilà. Surtout que c'est des rendez-vous réguliers, donc je sais les moments où je ne peux pas bosser qui sont consacrés à ma famille. Mais voilà, ça a été une étape quand même...
C'est une gymnastique. Hein.
Ouais, et ça, mine de rien, ça a été difficile et du coup, c'est vrai que... j'arrive beaucoup mieux à encore plus à me légitimer en fait depuis que j'ai pris ce recul là et aujourd'hui je le dis quand on parle de mon activité qui me dégage pas de salaire il me dégage pas encore un salaire qui me permet de vivre correctement certes
et est-ce que tu aurais envie de changer
mais pas du tout en fait. Parce que aujourd'hui, j'adore mon métier.
Et si je te dis, alors du coup, mais ça veut dire que t'es égoïste ? Parce que ça veut dire que du coup, c'est ton mari qui ramène plus le sous que ça. Ah bah et arrête, ça, c'est le truc qu'on entend souvent. On a que quelques minutes, on va faire juste ce petit truc-là.
Mais combien de fois ? Même lui, hein, parce que forcément, enfin,
ça crée,
en fait,
couple, hein.
Ça crée un décalage. Quand il y en a un seul dans le couple qui est entrepreneur, à un moment donné, ça crée un décalage. Et même si c'était pas méchant de sa part et que c'est sorti, en fait, comme c'est sorti et qu'il a pas réfléchi sur le coup, c'est après coup, quand on en a rediscuté, qu'il m'a dit non, mais je suis désolée, en fait, j'avais pas à dire ça. Parce qu'en fait, ce que je lui ai dit, ouais, mais si j'avais le même salaire que toi, bah en fait, t'aurais pas le salaire que t'as aujourd'hui. Parce qu'on devrait se partager les rendez-vous. Et là, il a compris, en fait.
Et la garde des enfants, et le soin. Et
c'est ça.
Enfin, voilà, c'est... Ce temps-là n'est aussi pas comptabilisé. Je ne veux pas parler de toutes les choses sociales dont on devrait parler, mais voilà, c'est vrai, ce temps-là n'est pas comptabilisé non plus.
Ouais.
Et il n'est pas comptabilisé non plus pour celles qui sont salariées.
Oui, on
et
est d'accord.
Pan. Voilà.
Ce n'est pas une compétition.
Exactement. Non, mais juste...
Mais
c'est...
Oui.
Quand on rentre chez nous, quand on est chez nous, et que, en fait, c'est les mêmes tâches.
Ouais.
C'est les mêmes tâches qui nous restent, et c'est pareil, quoi.
C'est
à un moment donné, ça peut être les mêmes disputes, ça peut être les mêmes choses. À partir d'une certaine période dans l'année, on arrive tout au même niveau de salaire, et c'est difficile, et voilà. Et pour celles qui sont au foyer, qui donc, pour moi, travaillent à la maison,
également,
et ben, c'est difficile aussi. Donc, j'aimerais juste qu'on arrête cette petite compète-là de... Qui a la plus grande parce que c'est pas intéressant.
Ouais, et puis surtout qu'en fait, on a choisi nos vies.
Ouais.
On les a choisies. N'oubliez pas, si vos vies ne vous correspondent pas, choisissez.
Exactement.
Vous êtes maître de votre vie. Le choix n'est pas simple à faire. Hein. Attention, je dis
le
pas.
Le choix n'est jamais simple.
Je dis pas qu'on claque des doigts, le choix il est fait et tout est beau, tout est rose. Bien loin de là. Hein. Mais la vie n'est qu'une question de choix et de moyens aussi qu'on se donne. Donc voilà, l'entrepreneuriat est loin d'être l'image qu'on entend de cette liberté idéale où, ouais. où on se lance le mois d'après, on se dégage 2000 euros de salaire.
Non, 10K.
Ah ouais, toi, tu vises haut, toi.
Non, c'est ce qu'ils disent quand ils sont à Dubaï et tout. Oui, oui. 10K.
Ouais. Enfin, voilà. Donc, non. Il y a des mois où on se fait zéro. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je le dis clairement, je n'ai pas honte de le dire. C'est pas ça qui me c'est pas encore mon activité qui me permet de vivre. Voilà.
Bah écoute, en tout cas, moi je trouve que peut-être que là, cette fois, cette émission vous aura paru peut-être un peu plus brutale parce qu'on sera vraiment allé dans le cœur du truc. Mais oui, on est maman entrepreneur, on est même preneur, on a un certain vécu. Et je pense que d'oser le raconter, d'oser le dire, ça peut peut-être aider celles qui sont en galère et qui se disent comment je fais pour démarrer, ma famille m'a dit ça, mon conjoint m'a dit ça, ma tante m'a dit ça, ma meilleure amie m'a dit ce truc-là, et moi, qu'est-ce que je fais au milieu parce que j'aurais envie de lancer ce truc-là. Bah écoute, de toute façon, je crois que le mieux, c'est déjà d'essayer de te lancer, de mettre du mouvement et de voir si ça matche pour toi, en fait. Et après, ça matche pas, tu arrêtes. Ça matche, continue.
Et je rajouterais
même... Mais tu vas être une tortue.
Je sais pas si Lucie va me rejoindre là-dessus, mais je dirais même que si jamais vous nous entendez, vous entendez cette émission et que l'entrepreneuriat vous tente, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez envie d'échanger avec nous sur le sujet. Oui, vous pouvez nous écrire aussi pour venir témoigner, mais vous pouvez aussi nous écrire pour venir échanger sur l'entrepreneuriat et vous accompagner. Ce ne sera pas un accompagnement.
Alors moi, si j'en fais des accompagnants de maman.
Ouais, toi, t'en fais, ouais.
Ouais, je fais les accompagnants des accompagnements de maman qui auraient envie de savoir comment est-ce qu'on jongle entre telle formation et allaitement, telle formation et j'emmène mon petit à la crèche et comment est-ce qu'on organise les choses comme ça. Comment est-ce qu'on doit structurer un peu les choses, parce que pour le coup, là, en 12 ans, c'est quand même bien ce que j'ai appris à faire. Et donc vous connaissez aussi mon parcours, vous savez que voilà, d'avoir 4 enfants non-stop à la maison, ça peut ne pas être évident. Donc maintenant, quand je dis que je suis rodée, c'est quelque chose sur lequel je suis rodée, et j'ai accompagné déjà d'autres personnes parce qu'il se trouve que mes patientes, après avoir soigné leurs maux, et ben après elles ont envie de monter des projets. Donc du coup, bah on termine souvent les séances avec ouais, moi je vais monter un spectacle, moi je vais devenir comme ça, voilà, je vais devenir correctrice, je vais faire tel truc, et elles montent leurs entreprises. Après elles vont vers des personnes qui leur indiquent comment faire, mais la base de l'emploi du temps, en fait, comment tu gères ce truc là ça c'est bon,
c'est un casse-tête.
ça on le voit aussi en séance, pour la mise en mouvement, le premier appel. Donc faut pas hésiter, puis n'hésitez pas à nous dire aussi si vous aimez ou pas cette émission.
Vous pouvez nous écrire un petit mail,
ce qui vous a plu, ce qui vous déplaît,
ce que vous
aimeriez entendre. C'est toujours constructif. Si vous avez peur de venir témoigner, voilà, mais n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos retours, parce que c'est toujours positif. Ça nous permet d'améliorer les choses, parce que c'est aussi ça, l'entrepreneuriat.
Voilà, sur ces derniers mots, c'est la fin de l'émission et on se retrouve tous les premiers lundis du mois à 10h pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez nous écrire à lapausematernelle@outlook.fr, soit pour venir témoigner, soit juste pour échanger, avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous et au mois prochain.
Au mois prochain.
La pause maternelle.